Donc on commence à la page 22, chapitre 3, Mishnah 8.
C'est 23.
Donc je voudrais juste résumer sur page 23. Donc, je voudrais résumer un petit peu ce qu'on a eu dans la Mishnah de la semaine dernière, parce que c'est dans la Mishnah de lundi, pardon, il y avait pas mal de détails. Donc, en gros, je vais reprendre le cas principal, parce qu'on avait eu beaucoup de cas annexes dans la Mishnah, mais le cas principal de la Mishnah, c'était quoi? C'était quelqu'un qui prête de l'argent à un Kohen et à un Lévi. D'accord? D'accord? Quelqu'un qui prête de l'argent à un Kohen et à un Lévi. Et que, imaginez-vous par exemple que je dois prélever 200 euros de maaser. Bon, d'accord? Je dois prélever 200 euros de maaser. Et qu'il y a un Cohen ou un Lévi qui a besoin d'argent. Alors je lui prête de l'argent, je lui prête 1000 euros. Mais je lui dis, dans 2 mois, quand tu devras me rendre cet argent, au lieu de me rendre 1000, tu me rends 800. D'accord? Très bien. Alors moi, la question qu'on s'est posée ici, c'est est-ce que... Donc le maaser, je ne l'ai pas encore donné. Le maaser, en vérité, je ne le donnerai que dans 2 mois. Parce que maintenant... C'est-à-dire le maaser va s'appliquer seulement au moment où il devra me rendre, seulement au moment où il devra me rendre ma dette. Et que là, je lui dis, au lieu de tout me rendre, tu gardes une partie pour toi. La question qu'on s'est posée, c'est est-ce que moi, depuis maintenant, je peux considérer comme si que mon maaser a déjà été donné. C'est-à-dire depuis maintenant, on n'a pas encore attendu les 2 mois, ou bien je me dis peut-être que d'ici là, d'ici 2 mois, peut-être qu'il peut mourir, on va savoir ce qui peut se passer. C'est le problème qu'on a aussi avec les chèques. Pourquoi on n'a pas le droit de faire un chèque comment ils appellent ça, antidaté, d'accord? Parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer d'ici là. Oui, c'est pas ce qui peut se passer. Normalement, légalement, on n'a pas le droit. Très bien. Donc là, c'est le problème qu'on a ici. D'accord? D'ailleurs, en passant, il y a une grande histoire qui s'est passée l'année dernière en Angleterre. Il y a un grand donateur qui aide beaucoup de Mosdod, d'institutions en Angleterre et dans le monde entier. Il s'appelle Ben Sion Dooner. Et donc il avait fait comme ça beaucoup de chèques antidatés, parce que bon, il donne toute l'année, mais il donne vraiment des millions de pounds, hein, c'est beaucoup d'argent. Et il est nécessaire dans un accident de voiture, juste après pour rien. Et il était très embêté, parce que la banque ne pouvait pas prendre des chèques antidatés. Ils ont dit, pour nous, ça vaut rien ces chèques. Donc ils étaient très embêtés. À la fin, bon, ils ont trouvé un compromis avec les enfants, etc., mais c'était compliqué.
Si lui dit au Cohen, je te donne 800,
ça sort pour être bon. Ça c'est bon. Mais là il a pas fait ça maintenant. Là il a pas fait ça. Là il a fait, je te donne 1000, d'accord? 1000 que tu peux prendre maintenant, parce qu'il faut comprendre, l'argent de maaser, on peut avoir des restrictions. Donc il lui dit, moi je te donne 1000 que tu peux faire ce que tu veux avec, mais le jour où tu devras me rendre, Bokertov, tu garderas 200 en tant que maaser. Tu comprends? C'est-à-dire que les 1000 que je te donne maintenant, c'est de l'argent libre, de l'argent, tu fais ce que tu veux avec, c'est de l'argent roll. Mais le jour où tu devras me rendre, tu me rendras que 800, c'est-à-dire à ce moment-là, tu convertiras une partie de ce que tu dois me rendre en maaser pour toi. Tu vois la logique? Alors, est-ce que moi je le considère depuis maintenant comme si que c'est fait? Comme si que je l'ai déjà donné? Oui ou non? D'accord? Alors, la réponse est oui. D'accord? Oui. La réponse est oui. C'est qu'on ne craint pas de peur que le Cohen est mort ou je sais pas quoi. Dans ma tête, je lui ai donné, même si entre-temps il est parti, il a fait sa lia, il est parti je sais pas où, tant que j'ai rien entendu. Pour moi, c'est certainement qu'il est encore vivant, Baruch HaShem, et que, d'accord, et que certainement, donc, qu'il n'y a pas de problème que le maaser a été fait. Mais maintenant, on passe à la Mishnah 8, d'accord. Ameni arperot liot mafrish aleem trauma ou maasrot. Une personne qui laisse des fruits de côté, pour pouvoir prélever dessus la terouma et le maaser. Ça veut dire comme ça. Imaginez que c'est quelqu'un qui a beaucoup de débit, d'accord, qui a beaucoup de débit. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a eu une idée, pas à chaque fois prélever la terouma et maaser manuellement. Il a préparé un hangar dans lequel il a mis là-bas, je sais pas, 10 tonnes de récolte, et il a dit voilà, ces 10 tonnes seront maaser. Maintenant, j'ai pas encore 10 tonnes de maaser à donner maintenant. Mais dans les mois qui vont suivre, d'accord, chaque fois que je vais prendre maaser, je dis que c'est sur le compte. Sur quel compte? Sur le compte du hangar. Maintenant, dans le hangar, on va savoir ce qui s'est passé. Ouais. Peut-être qu'il y a eu des souris qui sont passées, des rats qui sont passés. Alors qui te dit que ton maaser est toujours valable? D'accord? Donc c'est le même style de problème. Amani arperot, liot mafrish alem, truma ou maasrot. Une personne qui laisse des fruits, donc il met des fruits de côté, pour prélever dessus la terouma et le maaser. Maintenant, il n'a pas de quoi prélever, il n'a rien à prélever, mais il met de côté, il met une réserve. D'accord? Ça peut être avec de l'argent aussi. J'ai mis avec des fruits, mais ça peut être avec de l'argent. Quelqu'un qui met de l'argent de côté, d'accord? Il appelle ça sa réserve de maaser. Et il dit, voilà, dès que je reçois ma paye, d'accord, il met une réserve de maaser pour 5 mois de côté, et chaque fois qu'il reçoit sa paye, donc tous les mois, il dit, je mets ça sur la réserve. Maintenant, on va savoir ce qui se passe avec cette réserve. Peut-être qu'on l'a volé. Alors écoutez bien, donc pareil, Marot, Liot, Mafrichelem, Maaser Sheni, ou bien s'il met de l'argent de côté pour prélever dessus le Maaser Sheni, donc le Maaser Sheni, ça veut dire pour le, c'est quand on échangeait des fruits contre de l'argent pour et pour pouvoir consommer ce, avec cet argent-là à Jérusalem, mafrish aleihem bechaskat shehem kayamim. On a le droit de prélever, d'accord? Ça veut dire que 2 mois plus tard, je reçois ma paye. J'ai le droit de prélever sur le compte de cet argent que j'ai mis de côté, il y a 2 mois, avec la présomption qu'ils sont toujours, qu'ils existent toujours, bien que c'est possible quelque chose qui s'est passé. Alors, écoutez bien ce que dit la Gemara, c'est pas écrit dans la Mishnah. La Gemara explique que normalement, d'accord, en tormin ela mina mukaf. Normalement, on a un principe, c'est que on ne peut prélever que de ce qui est à côté de nous. Ça veut dire normalement on n'a pas le droit de prélever comme ça, de prélever sur quelque chose qui est ailleurs. Par exemple, d'accord, si j'ai reçu ma paye, j'ai pas le droit de dire j'ai mis de l'argent de côté là-bas, alors j'enlèverai de là-bas. Non, il n'y a pas. Il faut prélever maintenant. Prélever maintenant de l'argent que tu as à côté de toi, que tu sais que tu as cet argent. Agmara explique que de quel cas elle parle la Mishnah. La Mishnah elle parle d'un cas où il y a urgence. Par exemple, on est juste avant Shabbat et j'ai besoin de manger ces fruits pendant Shabbat. Or, il faut savoir que pendant Shabbat, on n'a pas le droit de prélever le maaser. Et la seule solution que j'ai maintenant, j'ai besoin de toute cette récolte-là, la seule solution que j'ai maintenant, c'est de dire, je mets le maaser sur le compte de ce que j'ai mis à côté, de ce que j'ai mis de côté. C'est cachère, c'est bon. D'accord? Et je me dis, bah, peut-être qu'entre-temps, ils ont été brûlés, ou à savoir ce qui s'est passé. Non, c'est cachère. Im avdu, oui.
Si jamais il y a, par exemple, quelqu'un qui, on veut offrir le maaser sur une yeshiva ben azmanim, par exemple, et on paye par exemple 260 euros pour le mois d'études.
Oui.
Si 260 euros c'est largement au-dessus du maaser, mais c'est soit ça, soit on donne rien à cette...
Oui, mais tu les as payés, c'est fini.
On les a payés, mais on peut considérer que ça est valable pour plusieurs mois.
Bien sûr. D'accord. Là on parle de quelqu'un qui n'a pas payé, là on parle de quelqu'un qui a mis de côté. Il a mis de côté de l'argent, d'accord, chez lui à la maison, par exemple, il a mis de côté de l'argent, il dit voilà, cet argent, c'est ma réserve de maaser. Et chaque fois qu'il a du maaser, il dit, bon, sur la réserve. Maintenant, peut-être que la femme de ménage l'a volé entre-temps, on va savoir ce qui s'est passé. On dit, c'est pas grave. Si tu as un cas d'urgence, tu prélèves comme si c'est là-bas. Certainement que c'est là-bas. Tant que tu n'as pas entendu que ça a disparu, ça n'a pas disparu. Maintenant, là va venir le problème. Im avdou. 3 mois plus tard, je viens pour chercher la réserve et je dis, bon, voilà, je vais prendre la réserve de maaser et pour la donner au Cohen. J'ai prélevé dessus pendant 3 mois, il n'y a plus rien. Il n'y a rien. Le problème, c'est que, écoutez bien la question qu'on a ici, c'est que tout va dépendre quand ça a été volé. On ne sait pas, mais tout va dépendre quand ça a été volé. Si ça a été volé hier, donc le maaser que j'ai prélevé sur cet argent-là, il y a 1 mois, il y a 2 mois, eh ben, il est bon, il est cachère. Donc en vérité, l'argent qui a été volé, c'est de l'argent de maaser. Vous suivez? Donc l'argent de maaser, ben, c'est pas de ma faute, c'est de la faute de Dieu. On dit, écoute Dieu, t'avais qu'à garder ton argent. D'accord? Ben oui. Donc là, la question qu'on se dit, c'est, je ne sais pas quand ça a été volé. Alors, quand on considère que ça a été volé? Qu'est-ce que vous dites?
Ben, on voit bien quand c'est une infraction, en fait.
Oui, mais on ne sait pas. Voilà, moi, je viens pour chercher, et je vois qu'apparemment, ça a été volé par la femme.
Dieu s'est déjà servi.
D'accord? Il y a quelqu'un qui s'est servi, mais on ne sait pas quand. Si, il s'est servi il y a 3 mois, donc je dois refaire le maaster pour 3 mois. D'accord, c'est une petite somme, ça va encore, mais c'est une grosse somme.
Est-ce que je tiens ma comptabilité d'abord?
Ben, tiens. Si, je tiens ma comptabilité. D'accord. Je tiens ma comptabilité.
Donc là-bas, c'était une réserve de maaser.
Voilà, rien que de maaser.
Une caméra. Puis
c'est ce que je fais.
Mais une caméra qui surveille.
Ils ont tout volé, il ne reste plus rien. Ils ont tout pris. Ils sont bien servis.
Mais qu'est-ce que je fais? Il faut bien que je le reconstitue, non?
Je reconstitue quoi?
L'argent qui a été volé.
Je considère que
j'étais le gardien quand même de cet argent.
Oui, mais attendez. Mais peut-être que l'argent a été volé seulement hier. Mmh. Et donc, l'argent qui a été volé, c'était déjà en majorité de l'argent de maaser.
Oui, mais est-ce qu'il est considéré comme maaser puisque j'ai encore chez moi?
Mais alors, je l'ai mis de côté en tant que maaser,
oui,
c'est l'argent
de maaser. Il a été trié en tant
c'est
que maaser,
non,
mais il n'est pas donné.
C'est fini, c'est maaser. Ça y est, c'est maaser.
S'ils l'ont volé, c'est qu'ils en avaient besoin, donc je considère que je leur ai donné le maaser à eux.
Voilà. Alors, bon.
Alors, écoutez bien. Il avdou, arezé, rochèche, miatliet. D'accord? Si on les a perdus, dans ce cas-là, écoutez bien ce que nous dit la Mishnah. D'accord? La vie de Rabbi Eliezer ben Shammua. Il nous dit, divrei Rabbi Eliezer ben Shammua. Donc Rabbi Eliezer ben Shammua nous dit la chose suivante. Il nous dit que on craint seulement sur les dernières 24 heures. Ça veut dire qu'on se dit que l'effraction s'est passée dans les dernières 24 heures. Et donc tout le maaser que j'ai prélevé sur cet argent-là, enfin sur cette réserve-là, avant les dernières 24 heures, je considère que le maaser est cachère. Donc je refais uniquement le maaser que j'ai fait dans les 24 heures. C'est-à-dire si il y a 5 heures j'ai mis du maaser sur cette réserve-là, ce maaser-là je le refais. Mais plus que 24 heures,
on compte pas,
on fait comme si que ça a été volé dans les 24 heures. Ça c'est l'avis de Rabbi Eliezer ben Shammua. Sachez notamment, il faut savoir que dans la Gemara nous dit que les amis de Rabbi Eliezer ben Shammua n'étaient pas d'accord avec lui. eux, ils pensaient que, puisqu'on a émis un doute, on ne sait pas quand ça a été volé, donc il faut reprélever tout le maaser qu'on a prélevé sur cette réserve-là. Donc si on l'a fait pendant 5 mois, ben, il faut tout reprélever les 5 mois. D'accord ? Mais Rabbi Eliezer ben Shammua, apparemment, dit que, lui, il tient qu'on craint que sur les dernières 24 heures. Parce que lui, apparemment, il part d'une statistique qui dit que normalement, une effraction se rend compte dans les 24 heures. Je ne sais pas quelle statistique qu'on a aujourd'hui.
Ça dépend.
Quelqu'un qui paie par exemple son portemonnaie, sa carte de crédit ou des choses comme ça.
Il peut s'en apercevoir.
Pour combien de temps?
2-3 jours.
Deux, trois jours.
On parle d'un vol là, c'est pas une affaire. C'est
pareil.
Moi, je sais que dans les cartes de crédit, je me rappelle bien, dans les cartes de crédit, une fois je me suis fait voler ma carte de crédit, je me rappelle que dans l'assurance, il m'avait dit que sans qu'on se rende compte dans la semaine qui suit, on considère que ça peut prendre une semaine pour se rendre compte. Mais si tu viens, si tu dis que j'ai perdu ma carte il y a un mois, ils vont pas te payer toutes les dépenses que tu as fait il y a un mois. Si je me rappelle bien, c'était une semaine aujourd'hui qu'on continue.
Si j'ai des retraits au guichet avec le code.
Ah c'est sûr, ça, retrait au guichet avec le code, ça veut dire que t'as laissé ton code.
Mais j'ai une question. J'ai 3 000 € de main à faire.
Oui.
Et j'en ai utilisé que la moitié, 1 500.
Très bien.
Donc il me reste 1 500.
Très bien.
Après je m'aperçois qu'on m'a volé ce main à faire.
Oui.
Est-ce que ces 1 500 là, je considère que c'est toujours un maaser?
Ah ben, attendez, excusez-moi, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi 3 000 € de maaser?
Ben, j'ai mis une réserve de 3 000 €.
C'est
3 000 € pour faire quoi?
Eh ben, pour payer le maaser.
Payer le maaser plus tard, mais maintenant, on l'a pas encore prélevé.
Plus tard, voilà.
D'accord, c'est-à-dire que maintenant, cet argent n'est pas encore maaser. Bah oui.
Il est réservé pour
le maaser.
Oui, il est réservé pour le maaser.
C'est pas le cas que qu'elle a dit. Qu'elle a dit tout à l'heure un autre cas. Il a dit, si j'ai déjà prélevé le maaser, par exemple, je vais à un gala, on me demande 1 000 €. Je paye 1 000 €. Maintenant, j'ai pas besoin de donner 1 000 € de maaser encore.
Ouais.
Mais je dis, je compte ça sur les maasers des mois suivants.
D'accord.
Pas de problème. Ça n'est pas, parce que le maaser a déjà été donné. C'est pas ce qu'on parle ici. Ici, on parle que le maaser n'a pas encore été donné. C'est une réserve que j'ai mis de côté pour prélever le maaser dessus.
Mais moi, c'est la même chose. C'est une réserve d'argent que j'ai mis de côté
Oui. Pour
prélever le maaser dessus.
Voilà bien.
Et après, j'apprends qu'on a volé cet argent.
Alors, 1 500, eh ben tant pis, c'est à Dieu que ça a été volé, d'accord ? Mais les autres 1 500, vous les avez perdus.
Il faut les refaire.
Ouais.
C'est responsable
de cet argent. C'est votre argent, c'est pas l'argent du maaser.
Ouais.
On n'a pas encore prévu maaser dessus.
Ouais, mais ils étaient destinés au maaser.
Ça change rien, ils n'étaient pas maaser encore, on n'a pas prélevé encore. Le mieux, ça aurait été de dire que depuis maintenant, ils sont déjà maaser.
Tu vois à quoi ça sert, le maaser?
Depuis maintenant, je donne.
Ouais,
d'accord
bien.
Je donne maaser. Mais, d'accord, je déduirai du maaser des mois suivants. Mais c'est déjà maaser maintenant. Là, dans ce cas-là, c'est pas à moi.
Donc là, comme les prends.
Mais bon, bien entendu, on est responsable du maaser. Faut pas le laisser courir les rues. Rabbi Yehuda Omer. Rabbi Yehuda Haïdi. Rabbi Yehuda va nous apprendre encore autre chose. Toujours à propos donc du maaser, donc d'une réserve de maaser que j'ai mis de côté pour prélever le maaser. Ça peut être le cas également pour le vin. Donc quelqu'un qui a du vin, sur lequel il n'a pas prélevé le maaser encore. Qu'est-ce qu'il fait? Quelqu'un qui dit, voilà, moi je prélève le maaser chaque Shabbat, avant de prendre le vin pour Shabbat, je prélève le maaser sur ce vin-là. Très bien. Arrive un jour, il arrive juste avant Shabbat, il n'a pas le temps de prélever, etc. Il dit, bon, j'ai une réserve de maaser là-bas, une réserve pour le maaser. Alors, voilà, bon, un litre du vin que j'ai dans la cave, il partira pour maaser. Très bien. Ah, écoutez bien, le problème, c'est que peut-être, entre-temps, ce vin que tu as dans la cave, peut-être qu'il a tourné. On ne peut pas prélever le maaser avec du vin qui a tourné. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas prélever du vinaigre pour du vin. On est bien d'accord. Très bien. Alors, Bishlocha Prakim Petit Matayin. Mais dans ce cas-là, on n'en finit plus. Et dans ce cas, il faut le vérifier tous les jours, toutes les heures. Alors, Rabbi Yehuda nous dit qu'on doit vérifier le vin. Bishlocha Prakim à 3 périodes de l'année. 3 périodes de l'année, on vérifie, on goûte, on vérifie à l'odeur. On vérifie qu'il n'a pas tourné. Pas normalement.
Moi, je goûte plus, mais
normalement, à l'odeur, hein, je sais pas.
Bon, maintenant, c'est tout.
Normalement, à l'odeur, on... Bon. Alors écoutez bien les 3 périodes que tu as bu d'Anoudi.
Dans les tonneaux.
D'accord. Bekadim, Shalmotsai, Achag. Alors, il faut vérifier. Bekadim, Shalmotsai, Achag. Ça veut dire, lorsque souffle le vent qui vient de... Je suis curieux de savoir comment ça dit ça. Voilà. Donc le vent qui vient de l'Est, à l'issue de la fête de Soukhot. Vous savez qu'après la fête de Soukhot, il y a toujours un vent qui vient avec l'automne comme ça. Il y a un vent qui annonce l'hiver. Ce vent-là est dévastateur. D'accord ? Donc dès que ce vent-là arrive, il faut vérifier son vin. C'est la première période. Deuxième période, Uveotsat Smadar. C'est lorsque les bourgeons sortent.
Printemps.
Donc ça, c'est le printemps. D'accord ? C'est le printemps, c'est lorsque le bourgeon sort et qu'on commence à voir les raisins dans la grappe. C'est bien.
Bourgeon de celle de vigne. C'est plus
exactement. Tard. Donc le bourgeon, ce que j'ai dit, le bourgeon du raisin, le bourgeon de la vigne. Et troisième période, c'est quoi ? Bishat knisat maim baboser. Troisième période, c'est lorsque l'eau rentre baboser. Ça veut dire, comment il traduit ceci ? Dans le
raisin.
Lors de l'entrée de la sève, cherchez le mot. Lors de l'entrée de la sève dans les raisins verts. D'accord ? Dans les raisins verts, c'est-à-dire quand je dis un raisin vert, c'est le raisin vert, c'est des raisins qui n'ont pas encore mûri.
Oui.
Dans ces trois périodes-là, ces trois périodes dans lesquelles le vin, et des vignerons apparemment, dans lesquelles le vin peut tourner plus facilement que d'habitude, plus rapidement que d'habitude. C'est pour ça que dans ces trois périodes, on vérifie son vin, sa réserve de maaser, pour s'assurer qu'il n'a pas tourné. Mais un vin qui a été vérifié pendant ces trois périodes-là, on part de la présomption que certainement il est toujours bon, donc on peut prélever le maaser. Dans des cas extrêmes, comme j'ai dit, on peut prélever le maaser sur cette réserve-là. D'accord ? Ça, c'est ce que Rabbi Yehuda nous a dit. Donc, avec ça, on a fini le Perek Shlishi, le troisième chapitre. On commence Perek Revi'i.
Excuse-moi,
ouais.
Est-ce que si j'ai un champ au Liban, je suis en Israël, je dois donner le maaser sur ce champ au Liban ?
Bien sûr. Le maaser de 10%, bien sûr.
Il n'est pas donc attaché au lieu géographique ?
Non. Non, il y a d'autres maasers qui sont liés, des maasers spécifiques qui sont liés à l'état d'Eretz Israël, comme le maaser Sheni, le maaser Ani, il y a beaucoup de maasers.
En tant que cultivateur, hein? Quel que soit l'endroit,
10%, j'ai un peu 10%, oui, 10%, bien sûr.
Qu'est-ce qui est en passant sur le maaser?
Entre 10 et 20%.
Moi, je prélève du maaser de mon argent, et je donne à mon fils de l'argent pour, il part en voyage. Lui, dessus, il doit prélever le maaser aussi?
Normalement, la halakha dit que... Sur l'argent qu'on reçoit en cadeau, on n'a pas besoin de prélever le maaser. Comme vous savez, je crois qu'il y a le loto, voilà ce que j'allais dire.
Pourtant, on préserve le maaser sur l'argent qu'on reçoit du mariage.
Voilà, c'est pas obligé, mais on le fait. On le fait parce que c'est pas obligé. Alarchiquement parlant, c'est pas obligé. Tout ce que tu reçois en cadeau, t'es pas obligé. Mais, comme il dit exactement, on conseille aux jeunes mariés de prélever le maaser sur l'argent qu'ils ont reçu, parce que c'est une bonne habitude.
Sauf.
On le fait dans le.
Il y a un Dayan qui m'a dit que si au départ ton intention c'était que tu as payé ton mariage tout seul et que ton intention c'était de te faire rembourser ton mariage avec les cadeaux, avec
oui.
Que ce soit,
là c'est bon, si, là tu n'as pas besoin, effectivement. Parce que payer un mariage ça peut rentrer dans les frais de maaser.
Si c'est d'une aide qu'on reçoit.
Si c'est d'une
D'une aide. Si c'est pas un cadeau, je sais d'un jour.
C'est la même chose. Alors, ça dépend. Oui, par exemple, regardez, moi j'ai posé la question au Rav Kahn, je lui ai demandé est-ce qu'on a besoin de prélever le maaser. Vous savez, sur les allocations qu'on reçoit pour les enfants.
La CAF.
Elle m'a dit comme ça. Elle m'a dit, ça dépend. Elle m'a dit, il y a l'APL. L'APL, c'est l'aide pour le logement. Et il y a, les allocations familiales. Elle m'a dit, sur les allocations familiales, il faut prélever le maaser. Parce que les allocations familiales, c'est considéré comme une entrée. C'est pas un cadeau, c'est considéré comme une entrée que l'État t'aide. Donc, il faut prélever le maaser sur ça. Mais sur l'APL, il n'y a pas besoin de prélever le maaser. Pourquoi ? Il m'a dit parce que l'APL, c'est quoi le concept de l'APL ? L'APL, ça veut dire l'aide pour le logement, c'est qu'en vérité, ils déduisent de ton loyer. C'est-à-dire qu'ils te disent, au lieu que tu payes 1000 euros de loyer, nous on te demande de payer 800 euros de loyer. Donc en vérité, ils ne te donnent pas de l'argent. D'ailleurs, moi par exemple, dans mon cas, je ne vois même pas l'argent de l'APL. Elle va directement au bailleur. D'accord ? Donc c'est pour ça que c'est... Voilà ce qu'il m'a répondu. Il m'a dit, sur l'APL, il n'y a pas besoin, mais sur les allocations, il y a besoin. Bon, c'est pas des grosses sommes, mais c'est déjà ça.
Mais un truc qui est quand même bizarre, c'est bien que... Pourquoi ils ont fait ça ? Parce qu'ils ont augmenté les prix.
Oui,
c'est une façon de filtrer, de taxer
les... Ça change pas, mais c'est... L'APL, alarchiquement parlant, c'est considéré... Je demande Aura, c'est ça que je vous dis. Parce que, enfin, je donnais toutes les façons, mais... C'était parce qu'il y a quelqu'un qui m'a posé la question, donc j'ai demandé. C'est que le concept de l'APL, c'est que c'est une déduction sur le prix du loyer. Vous comprenez ? Donc on prélève pas de masse sur ça. C'est intéressant.
Sur toute entrée nette.
On prélève. Tout notre aide, on prélève. Alors, on commence juste la Mishnah suivante. Acholer, get l'ishto. Donc, on reprend notre... Les Mishnahs qu'on vient d'étudier, c'était en vérité une grande parenthèse. Parce que dès qu'on a... Comme on a l'habitude dans la Mishnah, hein, très souvent on se perd. Puisqu'on a commencé à dire que quand un mari envoie un get, il est à Paris, il envoie un get à sa femme qui est à New York. On dit que quand le get arrive à New York, on considère que le mari qui est à Paris est certainement toujours vivant. Puisqu'on a la présomption qu'il est toujours vivant. Donc, puisqu'on a parlé de système de présomption, donc on s'est évadé un peu, on est parti dans la présomption de maaser, présomption de réserve, toutes ces choses-là. Donc, on reprend notre sujet principal, qui est Gittin, donc le sujet des guettes. Acholer, get l'ishto. Un homme qui envoie un get à sa femme. Donc il envoie un guet à sa femme, donc peu importe, il habite Paris, Lyon, où vous voulez, il envoie un guet à sa femme. Veigia bashaliach. Et avant que le guet arrive chez la femme, il rattrape le shliach. Donc j'envoie quelqu'un, enfin une personne envoie quelqu'un pour divorcer sa femme. Et le temps que, avant que le shliach arrive chez la femme, d'accord, il change d'avis, Baruch Hashem, d'accord, il va veigia bashaliach. Donc il court chez le shliach et dit ah, ne donne pas le guet. D'accord. Oh shalach harav shliach. Ou bien, encore plus fort que ça, c'est pas lui qui est parti rattraper le shliach, mais il a envoyé un autre shliach pour rattraper ce shliach. D'accord. Il a envoyé quelqu'un, lui, un de ses enfants, il dit allez, va chercher ce. Parce qu'un shliach, ça peut être son fils aussi, hein.
Oui.
D'accord. Il a envoyé un de ses enfants, après il envoie un autre enfant, il dit va chercher ton frère, dis-lui ça y est, c'est fini. Ve'amarlo, il lui a dit. Get shenatatilar batel ou. Donc il va le chercher et il lui dit le get que je t'ai donné batel ou il est annulé.
Chez toi,
non. Ah non. Là on va pas chez la femme.
Si on n'arrive pas à choper le bonhomme,
on n'a pas encore parlé de ça.
D'accord.
Là on parle pour l'instant, il va chercher, on va rattraper le coursier.
D'accord.
On rattrape
c'est
le coursier.
Pas dur, on missionne un tueur et c'est fini.
D'accord. Donc il rattrape le coursier, ou bien moi je rattrape le coursier, ou bien j'envoie quelqu'un qui va rattraper le coursier. J'envoie un coursier pour rattraper le coursier.
Donc elle a jamais reçu.
D'accord. Non, elle a pas reçu.
Bah, alors qu'est-ce que j'ai besoin de lui
mais
dire?
Mais la question, écoutez bien, la question qu'on a ici, c'est d'abord, c'est, est-ce que un deuxième émissaire, est-ce qu'un coursier peut annuler un autre coursier?
Oui.
Eh oui, c'est pas simple. D'accord. C'est ça la question.
Qui peut dire non, c'est pas, bon.
Pas seulement ça. Même le premier coursier va dire écoutez, bah, vous m'avez donné une course, moi UPS, moi je livre. Hein. Ah, vous savez, quand vous mettez une lettre à la poste, d'accord, on peut plus la récupérer, hein, c'est fini.
Ouais.
Vous pouvez pas dire, ça vous est déjà arrivé de mettre une lettre à la poste, d'avoir regretté?
J'ai réussi à récupérer.
D'accord, vous avez réussi, ouais. Bah, c'est très dur. On récupère pas, c'est normalement impossible, c'est fini. Tu l'as mis, c'est fini, c'est trop tard. Là, le chidouche de la Mishnah, il est quoi? Arézé batel. Même si la personne te rend pas le get, te dit, mais je rends pas, UPS, j'ai pas le droit. Le get est annulé. Kadam et Tselishto, deuxième cas.
Même s'il va jusqu'au bout.
Même si le guet, il arrive
à se prévenir la femme.
Ah voilà, on va arriver.
D'accord.
Kadam et Tselishto. Si maintenant, il n'a pas eu le temps. Donc si maintenant, il se dit, j'ai pas le temps d'aller chez le coursier. D'accord. Je sais pas, il n'a pas réussi à trouver le coursier. Donc il court chez sa femme. Chez la femme qui voulait divorcer. Et il retrouve sa femme. D'accord. Et donc, il arrive chez elle. Le coursier n'est pas encore arrivé. D'accord. Oh, Shishalach et Tselashaliyah. Ou bien, il envoie un coursier. Chez la femme. D'accord. Pour lui dire quoi? Pour lui dire, tu vas recevoir un guet, mais n'y tiens pas compte. C'est ça.
Elle veut voir. D'abord, elle sait que c'est un guet.
Moi, j'attends le mari qui arrive. Le mari qui arrive, il dit, écoute, il y a un coursier qui va venir pour donner un guet,
mais fais comme si
tu n'as rien vu. Hein.
Mais elle, ah bon? Je veux voir ce qu'il y a dedans.
Non, mais le mari, il reste là, le temps que le coursier arrive. D'accord. Donc, Kadam et Tselishto, s'il a devancé les shliach, le coursier, chez sa femme, ou bien qu'il a envoyé un autre coursier chez la femme pour la prévenir, tu vas recevoir quelque chose, mais fais comme si tu n'as rien reçu. D'accord? Ve'amarla, donc ce coursier lui dit, ou bien lui-même, get shalartilir batel ou. Le get que je t'ai envoyé, il est annulé. D'accord? Si je t'ai envoyé un get, tu vas recevoir un truc par UPS, mais il est annulé. Voilà. Tu peux le jeter. Arézé batel. D'accord? Arézé batel. Il est annulé. Explique le Tosfot Yom Tov, c'est quoi le chidouche, c'est quoi la nouveauté, qu'est-ce que nous apprend la Mishnah? C'est qu'on aurait pu penser que le mari, s'il fait ça, hein, s'il a annulé le guet, c'est pas parce qu'il aime sa femme, c'est parce qu'il veut la faire souffrir encore quelques années. Il dit, oh, je vais pas lui donner son guet tout de suite, je vais la faire souffrir encore un peu. Et là, dans ce cas-là, on l'aurait pas laissé annuler son guet. Déjà, on a eu du mal à lui faire sortir son guet, alors si on va l'annuler, elle va savoir combien de temps ça va prendre. Il dit le Tosfot Yom Tov, nous on fait un maximum pour récupérer le mariage, et s'il y a une extrémiste, il dit je regrette. On se dit que certainement il le fait avec une bonne intention, bien que c'est possible que ce n'est pas une bonne intention.
Attends, on parle peut-être du guet qui a été fait plus ou moins sous la contrainte.
Non, peu importe. Bah, peut-être qu'il a décidé de la faire souffrir.
Lui, il dit maintenant qu'il...
C'est possible. Peut-être qu'il a fait pour la faire souffrir. Mais nous on part de la base, certainement il a une bonne intention. Si malheureusement le guet est déjà arrivé, le guet a déjà été écrit, il a déjà été signé, il a déjà été tamponné par le Beddin, il manquait juste à le transmettre à la main de la femme. Et malheureusement, UPS est déjà arrivé, ils ont déjà donné le guet à la main.
Mais elle n'a pas encore ouvert là.
D'accord, ça y est, elle a reçu.
Il faut des témoins pour
qu'elle le... Il y a eu, ça y est, il est arrivé.
Non, mais faut qu'elle le reçoive.
C'est fini.
C'est deux témoins pour le recevoir.
Il y a eu des témoins, ils étaient là, les deux gars d'UPS, et la femme a signé. D'accord. Imichi et Agat Leyada, si le guet est déjà arrivé, Shuv Neyachol le Batlo. On peut plus l'annuler, explique la Gemara. Même si on le voit en train de courir, il court pour essayer de rattraper.
N'attrape pas cette
lettre. Le courtier arrive 5 minutes avant.
Ah, film.
Et il a déjà donné le guet. Et le marin arrive et tu t'es soufflé. Il montre que c'est pas, ça fait pas 5 minutes qu'il a regretté. Ça fait déjà 2 heures qu'il a regretté. Trop tard. Peu importe, il a regretté. Tant qu'il n'a pas rattrapé le coursier ou qu'il n'a pas rattrapé sa femme, si le guet a été donné, même s'il a regretté, ça fait déjà 3 heures. Et que le guet a été donné il y a 5 minutes. Dès que le guet a été donné,
c'est trop tard. Il va pouvoir faire une mitzvah, puisque c'est une mitzvah de remarier.
Il va la remarier.
Avant qu'elle se remarie. Ouais.
Bon, mais elle est quand même, c'est quand même une deuxième. Hein.
Qui te dit qu'il va la réépouser?
Non, mais ce qui est étrange, c'est...
Bon, tu sais quoi, bah, si c'est déjà fait...
Ce qui est étrange, c'est que chez les Arabes, c'est le contraire. C'est une mitzvah pour eux de se remarier avec une femme si elle a été remariée une fois.
Si elle est... Ah, d'accord.
Ils ont tout traversé.
Ils ont inversé, voilà. Donc c'est intéressant, et on verra la semaine prochaine, Bezrat Hashem, des takanotes que Rabban Gamliel a fait autour du guet. Très intéressant. Alors, ça va être ici pour aujourd'hui.
On a une autre histoire, là.